Bonjour Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, un mythe fondateur de l'histoire des États-Unis, les pèlerins du Mayflower.
Une petite chandelle peut en allumer des milliers. Et la lumière qui s'est allumée ici s'est diffusée en quelque sorte sur toute notre nation. William Bradford, passager du Mayflower, est gouverneur de la colonie de Plymouth.
D'histoire. Ils n'ont pas découvert l'Amérique et ils n'en ont même pas été les premiers colons. Mais tous les Américains les appellent pourtant les pères pèlerins. Aventuriers ou puritains, ils étaient à peine une poignée à quitter l'Angleterre le 16 septembre 1620 pour fonder une des deux premières colonies anglaises d'Amérique du Nord. Mais si aujourd'hui on ne parle plus guère des premiers colons de Virginie, tous les Américains connaissent l'épopée des passagers du Mayflower. Et tous les ans, le quatrième jeudi de novembre, le jour des Thanksgiving, ils célèbrent la première récolte réalisée en Amérique par les passagers du Mayflower, un an après leur arrivée dans le Nouveau Monde, le 9 novembre 1620.
Ça semble des plus arides. Beaucoup de sable.
Le cap que vous voyez, c'est le cap Cod. Il y a un excellent abri de l'autre côté de la baie.
La Virginie est au fond de la baie.
On en est loin de la Virginie. C'est la Nouvelle-Angleterre.
Cette région est meilleure pour nous que la Virginie. Parce que le roi et l'église y exercent une domination moins rigoureuse.
André Caspi, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du film Capitaine sans peur, l'arrivée en Amérique d'un bateau dont tous les Américains connaissent le nom, le Mayflower, qui transportait ceux qu'on appelle en Amérique les Pilgrim's Fathers, les pères pèlerins, les premiers colons anglais de Nouvelle-Angleterre, mais qui n'étaient pas les premiers colons à s'installer aux États-Unis. Vous le rappelez dans un livre de référence que vous avez écrit sur l'histoire des États-Unis, ils n'étaient même pas ceux qui avaient découvert cette côte où ils sont arrivés en 1620, André Caspi.
Non, parce qu'en effet, la découverte progressive du continent américain date de la fin du 15e siècle. Et tout au long du 16e siècle, il y a eu une série d'expéditions, d'abord des expéditions françaises, comme ça, par exemple celle de Giovanni da Verrazzano qui travaillait pour le compte de François Ier.
Là, vous parlez de l'Amérique du Nord, hein, parce que l'Amérique du Sud, bien sûr, enfin, du central, c'est Christophe Colomb.
Oui, bien sûr. Mais Christophe Colomb n'a pas mis pied sur le territoire de l'Amérique du Nord. Donc, Giovanni da Verrazzano travaillait pour le roi François Ier. Il a pénétré dans la baie d'Hudson. Il a même créé une sorte de fort qu'on appelait Fort Angoulême, en l'honneur du roi de France. Puis, il est reparti.
C'était le site de New York, tout simplement.
Bien sûr. Ouais. Il y a eu par la suite Samuel Champlain, qui, lui, est allé à la découverte du Canada. Il y avait également des expéditions anglaises, comme par exemple celle de John Cabot, d'origine italienne lui-même aussi. Tout cela fait que...
Cabot, il faut le rappeler, vous le rappelez dans votre livre, d'où vient le mot cabotage, parce que c'est lui qui, en longeant les côtes du nord-est des États-Unis, les a découvertes. En fait.
Il les a découvertes, et son nom d'origine, c'était Giovanni Cabotto. C'est-à-dire que là aussi, les Italiens étaient à la pointe de ces explorations. Et ça veut dire que tout au long du XVIe siècle, il y avait des voyages qui avaient pour but de traverser l'Atlantique et d'essayer peut-être de reconnaître les côtes américaines, voire d'implanter des colonies.
Alors justement, il n'est pas encore question de s'y installer. Il faudra attendre à peu près un siècle, au fond, pour qu'on envisage d'y installer des colons. Et ça, c'est le rôle d'une compagnie. D'abord, le premier lieu, ça va être la Virginie, découverte par Raleigh, qui donne son nom à la Virginie en l'honneur de la reine Élisabeth d'Angleterre, la reine Vierge. Et c'est là qu'on installe les premiers colons dans une ville de Jamestown. Quand je dis « on », en fait, André Caspi, ce sont deux compagnies anglaises qui s'appelaient toutes deux la compagnie de Virginie. Quel était l'intérêt de ces compagnies d'envoyer des colons en Amérique? Qu'est-ce que ça leur rapportait?
Tout d'abord, il y avait un intérêt stratégique, parce qu'il ne faut pas oublier que venant du Sud, les Espagnols, eux, non seulement commençaient à coloniser l'Amérique centrale, mais avaient déjà établi des positions dans ce qui sera plus tard les États-Unis, notamment dans le futur État de Floride. Il y avait aussi un intérêt religieux, parce que les Espagnols, c'était le catholicisme, les Anglais, c'était une forme de protestantisme sur laquelle, si vous le voulez bien, nous reviendrons tout à l'heure. Et puis aussi, il y avait un intérêt économique qui était moins évident, c'est-à-dire qu'au fond, on se demandait quelle sorte de richesse ce nouveau continent pourrait donner. Est-ce que ce serait des richesses en métaux? Y aurait-il de l'or, par exemple? Est-ce que ce serait des richesses agricoles? Est-ce que ce serait des richesses humaines, éventuellement? C'est-à-dire, est-ce que l'on pourrait faire travailler les indigènes dans des plantations? Car, au départ, les colons pensaient que les Indiens serviraient de main-d'œuvre. Ils ont été déçus de ce point de vue-là. Mais tout cela, en somme, permet de comprendre l'intérêt que pouvait avoir l'Angleterre à tenter la colonisation de l'Amérique. J'ajouterai un point, c'est que l'Angleterre, dans cette affaire, vient la dernière. Il y a déjà eu des colonies espagnoles, il y a déjà des colonies françaises, et il y a même des colonies hollandaises qui s'apprêtent à s'implanter en Amérique du Nord. Les Anglais sont pratiquement les derniers.
Alors, ils sont les derniers, mais ils s'installent. Ils s'installent d'abord donc en Virginie en 1607, et puis alors un peu plus tard, en 1620, il y a un autre départ qui se fait, le départ du fameux Mayflower, avec à bord de ce bateau des colons très différents de ceux qui sont partis en Virginie.
Vous êtes sur le Mayflower ?
Je m'appelle Coppin, second du Mayflower.
Ces passagers vont sur le Mayflower ?
Oui.
Il y en a à bord ?
Non, il n'y en a pas.
Une bande d'originaux ?
Oui. Ils veulent prier comme ceci au lieu de faire comme ça. Et sans s'agenouiller, ils prient en restant debout. La tolérance religieuse, voilà ce qu'ils demandent. Et pour ça, ils s'en iront au bout du monde, chez les païens.
Vous, là, votre nom ?
Samuel Fuller. William Button.
William Bradford. Ma femme. Gilbert Winslow, j'arrive de Londres pour ne rien vous cacher.
Pourquoi vous en allez-vous ?
Je pars parce que je n'ai rien de mieux à faire ici. Je veux aller voir moi-même s'il existe un nouveau monde ou si c'est seulement l'envers de l'ancien. J'ai l'impression qu'on embarque. Nous levons l'ancre demain. Je vous salue.
Bonne chance.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Mayflower.
Ce qui distingue André Caspi, les colons du Mayflower, de ceux qui sont partis avant en Virginie, qui partaient plutôt pour faire fortune, là c'est une colonisation sur une base religieuse. La plupart, ou en tout cas un grand nombre des passagers du Mayflower qui partent en Amérique, sont des puritains. C'est quoi exactement ce...
Alors tout d'abord, sur les 102 passagers du Mayflower, 35 sont des pèlerins. Ils sont des pèlerins en ce sens qu'ils vont chercher la terre promise. Ils ne font pas un pèlerinage comme on fait aujourd'hui un pèlerinage à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils vont vers la terre promise. Ce sont des puritains au sens large du mot, c'est-à-dire qu'ils veulent purifier l'Église d'Angleterre. L'Église d'Angleterre a rompu avec Rome depuis le règne d'Henri VIII, c'est-à-dire pratiquement au milieu du XVIe siècle. Et depuis cette époque, elle évolue entre le catholicisme et le protestantisme plus ou moins marqué, de telle sorte que certains, à l'intérieur même de cette Église, souhaitent qu'on aille beaucoup plus loin. Et comme ils veulent purifier cette Église, on les désigne sous le terme, un peu péjoratif d'ailleurs, de puritains.
Mais séparatistes aussi même.
Mais alors, à l'intérieur du monde puritain, il y a plus puritains que les puritains. C'est-à-dire que les puritains continuent à rester en communion avec le reste de l'Église d'Angleterre, tandis que les séparatistes, eux, désespèrent de purifier l'Église et s'en séparent. Donc les pèlerins sont des séparatistes, c'est-à-dire qu'ils sont des puritains, bien sûr, mais des puritains extrémistes. Et c'est en ce sens qu'il faut les distinguer de ceux qui viendront plus tard coloniser le Massachusetts et qui seront, eux, des puritains en communion avec l'Église d'Angleterre. Ajoutons, pour faire bonne mesure, que la vie religieuse dans cette partie de l'Europe au début du XVIIe siècle est particulièrement complexe, agitée, révolutionnaire, révolutionnée par toutes les idées nouvelles qui y circulent, et il est évident que les puritains ou les séparatistes ne sont que l'un des éléments de ces transformations radicales qui animent le royaume d'Angleterre.
Et ils ne composent qu'une partie de l'équipage du Mayflower qui quitte l'Angleterre le 16 septembre 1620.
Voici notre première nuit en mer. Je commence à lier connaissance avec mes compagnons de voyage. Il est facile de distinguer les séparatistes de ceux qui partent faire du commerce ou tenter l'aventure. C'est peut-être à cause de la propreté et de la simplicité de mise des séparatistes qui ont fait de ces qualités un des éléments de leur religion. Ils ont édicté une maxime, en purifiant son corps, on purifie son âme, et cela les rend un peu fatigants. Les autres forment une troupe disparate, fermiers, tisserands, tailleurs, savetiers. Il y a aussi des commerçants qui ont eu la sagesse de pressentir les possibilités offertes par un nouveau monde. En dehors des enfants des colons, il y a les épaves de la rue, des orphelins sans foyer jetés à bord par le lormer de Londres.
Je serai le premier à percevoir la terre. Qu'on me laisse ouvrir l'œil et le bon, je serai le premier. Ce sera pareil au jardin de l'Éden.
Il n'y avait pas que des puritains, on l'a entendu à bord du Mayflower, André Caspi. Hein,
non, sur les 102 passagers, 35 sont des puritains, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des hommes, bien sûr.
31 enfants, vous dites.
Et à côté de ces puritains, il y a ce que l'on appelle des aventuriers, c'est-à-dire des gens qui ne partagent pas les convictions religieuses des pèlerins, mais qui essayent de trouver de l'autre côté de l'Atlantique une nouvelle fortune, des terres, des richesses, qui vont en somme tenter l'aventure, d'où le terme d'aventurier. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ces pèlerins sont pauvres. Ils ont très peu d'argent. Et du coup, ils dépendent justement de ces compagnons de route qui viennent ajouter à l'ensemble des passagers et qui peut-être pourront leur créer quelques difficultés au moment où l'on abordera la terre américaine.
Alors les difficultés, elles commencent très vite puisque le voyage a été très long, vous le rappelez, il a duré 2 mois à peu près, entre septembre et novembre 1620.
C'était la durée moyenne, vous savez, il fallait à peu près...
En 1620, il n'y avait pas encore, c'était pas les paquebots. Hein.
Non, il n'y avait ni les paquebots, ni même Concorde. Mais il fallait 2 mois pour traverser l'Atlantique. Le bateau était un petit bateau, il avait une centaine de tonneaux. Il fallait 64 jours aux puritains, aux pèlerins, pour aller de Plymouth en Angleterre jusqu'au Cape Cod. Et bien sûr, au cours de ces 64 jours, il y avait la tempête, il y avait le vent, il y avait la difficulté de se nourrir et aussi le contact avec tous les autres passagers qui nécessairement créaient des problèmes.
Alors vous dites Cape Cod, en fait ça se trouve dans l'actuel Massachusetts, mais ils arrivent là, alors qu'a priori, leur voyage, c'était la compagnie de Virginie qui les finançait, devait se faire vers la Virginie.
Oui, alors il y avait deux Virginies, il y avait la Virginie méridionale et la Virginie septentrionale.
Mais tout ça est très au sud de Cape Cod.
Oui, bien sûr, la septentrionale allait jusqu'à la baie d'Hudson, c'est-à-dire jusqu'à New York. Au-delà, aucune compagnie ne détenait de charte qui lui permettait d'installer des colons. Alors la question c'est de savoir pourquoi le bateau est arrivé à Cape Cod alors qu'il devait, en principe, toucher les côtes de la Virginie septentrionale. Là-dessus, il y a plusieurs interprétations. La première, erreur de navigation. La deuxième, c'est que les pèlerins auraient en somme demandé au capitaine d'aller plus vers le nord pour être indépendants de la compagnie de Virginie. La troisième interprétation, c'est qu'ils ont en effet fait un passage par la Virginie septentrionale et ils se sont aperçus qu'il y avait des hauts fonds et qu'en conséquence, le bateau ne pouvait pas pénétrer. Toujours est-il qu'au lieu d'aller en Virginie, ils se sont trouvés en terre encore inconnue, encore inhabitée, encore inattribuée. C'est cela qui est important. C'est-à-dire que personne ne disposait de cette domination politique sur cette terre qui se trouve au Cape Cod et qui entoure le Cape Cod.
Alors, ils décident de s'y installer et surtout, et là encore, ils se distinguent des autres colons, de rédiger et de signer une espèce de constitution à leur usage, ce qu'on a appelé le Mayflower Compact, rédigé le 21 novembre 1620 à bord du Mayflower.
Quel est aujourd'hui le danger qui nous menace? La disette, les bêtes féroces, les sauvages? Non. Le grand danger qui nous menace est un possible désaccord. Nous arrivons dans un territoire vierge. Il est possible ici de réviser les anciennes institutions et d'ériger un nouveau système dont la perfection et l'excellence jusqu'ici inconnues conviendraient à notre communauté naissante. Signons la convention du Mayflower que voici, prouvant notre volonté, indépendamment de notre condition passée comme de notre religion, de constituer un bloc politique homogène et de respecter toutes les lois promulguées par nos délégués pour notre commune sauvegarde. C'est cela ou l'anarchie. Que décidez-vous, messieurs?
J'approuve.
Oui, d'accord, d'accord.
Gouverneur John Carver. William Bradford.
Alors ce William Bradford, avant qu'on parle de la constitution, André Caspi, c'était un peu la figure marquante de ce groupe de pèlerins puritains du Mayflower, Bradford.
Oui, il faut dire que les pèlerins ont commencé par quitter l'Angleterre en 1608 et se sont réfugiés en Hollande, parce que la Hollande était une terre de liberté religieuse. Et puis en Hollande, ils ne s'y plaisaient pas, d'abord parce que la vie était dure, ensuite parce qu'il y avait des guerres, et en troisième lieu parce qu'ils avaient le sentiment de perdre une grande partie de leur identité anglaise. D'où leur volonté de passer de l'autre côté de l'Atlantique. Et dans cette affaire, William Bradford a joué un rôle important. Il a joué un rôle d'autant plus important que pendant une trentaine d'années, il a été régulièrement élu gouverneur de la colonie de Plymouth.
Et c'est la ville qu'il fonde, en fait, New Plymouth, parce qu'ils sont partis de Plymouth en Angleterre, et ils fondent New Plymouth.
Oui, de même qu'ils sont partis d'Angleterre et qu'ils arrivent en Nouvelle-Angleterre. Ouais. C'est-à-dire qu'il sera le gouverneur de la colonie de Plymouth, et c'est lui qui a rédigé l'histoire de cette colonie.
Alors, son rôle, parce qu'on a écouté, ça c'est très important, le fameux Mayflower Compact. En fait, on a souvent dit que cet accord que l'on vient d'entendre, qu'ils ont signé, préfigurait un peu la constitution des États-Unis, qui n'existe pas encore, qui n'existeront que 170 ans plus tard, qu'au fond, ils se sont fondés, ces pèlerins, c'est peut-être pour ça que les Américains retiennent leur aventure du Mayflower, ils ont fondé leurs principes, les principes qui deviendront ceux des États-Unis plus tard, André Caspi.
Oui et non, c'est-à-dire que d'abord il faut bien comprendre que le Mayflower Compact c'est le résultat des difficultés que les pèlerins rencontraient sur le bateau avec ceux qui n'étaient pas des pèlerins, c'est-à-dire les aventuriers. Ces aventuriers disaient, puisque nous ne sommes pas en Virginie, ça veut dire que nous pouvons faire exactement ce que nous voulons, et en conséquence, nous n'avons pas à obéir aux pèlerins. Alors, il est évident qu'une sorte de compromis a été établi, et on a entendu, justement, dans l'extrait que vous avez cité, le contenu même de ce compromis. Alors, ce compromis, est-ce que c'est ce qui précède la Constitution des États-Unis? Oui, bien sûr, en ce sens que c'est une sorte d'état de droit qui est formé, c'est-à-dire c'est la volonté générale qui doit décider des lois. C'est une sorte de répartition, si l'on peut dire, des pouvoirs avec l'élection. Cela correspond aussi à des pratiques qui étaient très courantes dans les communautés protestantes du nord de l'Europe. Et ce que l'on peut ajouter, c'est que malgré tout, ces séparatistes, ces pèlerins, ne voient pas une sorte de grande nation américaine qui va un jour se constituer. Ça, c'est le mythe. Ce qu'ils imaginent avant tout, c'est une communauté de séparatistes qui se met à l'écart de tous les autres mouvements pour pouvoir pratiquer en toute liberté leur culte. En ce sens, ils ressemblent plus, pardonnez-moi de le dire, à une secte qu'à une religion.
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça donc une constitution, mais en tout cas, elle n'est valable que pour leur petite colonie à New Plymouth, donc dans l'actuel Massachusetts, où les passagers du Mayflower mettent des mois à s'installer dans des conditions difficiles. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, alors, si on connaît si bien l'histoire du Mayflower, si vous l'avez dit, c'est grâce à un livre étonnant, mythique, l'histoire de la colonie de Plymouth, écrit par ce William Bradford, justement, un livre qui tient à la fois du récit d'aventure, épique, et du récit biblique, avec beaucoup de références à Dieu et à la terre promise. D'ailleurs, en arrivant à Cape Cod, ces Anglais rendent grâce à Dieu. Aussitôt qu'ils eurent débarqué, ils tombèrent à genoux et bénirent le Dieu des cieux, car c'est lui qui les avait emmenés par-delà l'immensité du furieux océan. Mais ce qu'ils découvrent devant eux a tout aussi pour les effrayer. Aucun ami n'était là pour les accueillir, aucune auberge pour les recevoir. En fait, ils n'avaient devant eux que le spectacle d'une immense cité sauvage, terrifiante et désolée, qui regorgeait de hordes de bêtes et d'hommes sauvages. En première tâche, pour eux, se loger. Ils commencèrent à bâtir quelques petites chaumières pour y vivre. Ils doivent aussi régler des conflits. Dans ces premiers temps difficiles, raconte Bradford, certains avaient pu se laisser aller à la récrimination et d'autres s'autorisaient même des propos et des comportements irrespectueux. Mais, assure Bradford, ce mécontentement avait rapidement été vaincu grâce à la sagesse du gouverneur et celle d'une bonne partie de la compagnie. Essentiel aussi, il faut se nourrir et pour cela trouver des terres à cultiver. Or, le premier jour, une équipe part en reconnaissance à l'intérieur des terres. Alors, après une rencontre fugace avec quelques Indiens qui, d'ailleurs, s'enfuirent les voyant, ils découvrent, raconte Bradford, un grand terrain où les Indiens avaient auparavant planté du blé. Et en creusant, ils trouvèrent plusieurs beaux paniers indiens remplis de blé et d'autres beaux épis de couleurs variées, dont la découverte les ravit. En effet, explique Bradford, c'était un acte de la providence divine et un immense soulagement pour ces pauvres gens. Cela promettait une récolte pour l'année suivante, sans quoi ils auraient pu mourir de faim. Et malgré cela, ces colons vont souffrir mourir de la famine. Par malheur, écrit Bradford, en 2 ou 3 mois, la moitié de la compagnie fut emportée par la mort. Ils avaient été infectés par le scorbut et d'autres maladies causées par leur grand voyage et les conditions précaires dans lesquelles ils vivaient. Autre souci de taille, les Indiens. Une nuit, le campement des Anglais est attaqué. Les Indiens !» Aussitôt, une pluie de flèches s'abattit sur eux. Les cris des Indiens les remplirent d'épouvante. Mais, heureusement pour eux, les Anglais vont avoir le dessus. Ainsi, dit Bradford, il plut à Dieu de vaincre leurs ennemis et de les délivrer. Bon, ils ont Dieu, mais ils ont aussi quelques armes à feu. Hein. Alors, cette scène primitive, porteuse, hein, on dira, de tous les westerns et de tous les massacres à venir, eh bien, c'est leur première rencontre avec les Indiens. D'ailleurs, précise Bradford, ils rendirent grâce à Dieu et appelèrent l'endroit la première rencontre.
Et oui, André Caspino, seulement les passagers du Mayflower ne sont pas les premiers colons anglais d'Amérique, mais ils n'en sont pas non plus les premiers habitants. Et puis non. Ça commence pas forcément bien avec les Indiens.
Non, parce que en fait, les Indiens, d'abord le terme indien est un terme très vague qui a été donné par Christophe Colomb parce qu'il pensait avoir découvert les Indes. Mais il est évident que parmi les Indiens, il y a de multiples tribus, des aires culturelles très différentes les unes des autres. Là, il s'agit des Indiens du nord-est des États-Unis. Ils sont encore nombreux. Alors, ils ont un avantage, c'est-à-dire qu'ils connaissent le terrain, ils peuvent éventuellement enseigner différentes cultures, commencer par la culture du maïs, mais d'autres encore, et qu'ils connaissent suffisamment la région pour être de bons initiateurs. Mais en même temps, ils s'en méfient, ils se méfient de ces Blancs, d'autant plus que les séparatistes, les pèlerins, ne sont pas venus pour les convertir, pour les aimer, pour fraterniser. Ils sont venus, eux, pour installer le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils pensent, et le texte de Bradford le dit bien, plus à Dieu que ceci, plus à Dieu que cela, ils pensent qu'ils sont sur la terre promise. Ils recommencent, si l'on peut dire, l'arrivée des Hébreux en terre de Canaan. C'est-à-dire que c'est un recommencement biblique. Donc, pour eux, les Indiens, c'est une peuplade qu'il faut repousser parce que ce sont des infidèles, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et on n'est pas là non plus pour en faire des chrétiens. Alors, c'est ce qui explique que, très vite, les tensions ont dégénéré en véritable guerre.
Alors, donc, c'est la première rencontre avec les Indiens. C'est aussi le premier départ de la colonie, celui du commandant du Mayflower, qui a attendu que les premières habitations de ses passagers soient construites pour rentrer en Angleterre.
À Christopher Jones, capitaine du Mayflower, dont la fidélité nous a soutenus et nous a protégés pendant notre premier hiver sur les côtes d'Amérique. Avec l'affection et les remerciements éternels de nous tous.
Je vous souhaite à tous la fortune. Il y aura un jour 2, 10, 20 voiles, des flottes entières qui viendront vous rejoindre. J'en ferai partie. Je dois m'en aller.
Dieu vous bénisse.
Et c'était le commandant du Mayflower, joué dans ce film par Spencer Tracy, qui tend donc l'Amérique pour revenir en Europe. Et alors, comme on vient de l'entendre, des bateaux, il y en aura beaucoup qui vont suivre le même trajet que le Mayflower. Vous rappelez, André Caspi, que en 1660, c'est-à-dire 40 ans après l'installation de la colonie de Plymouth, eh bien, le Massachusetts, qui s'appelle à ce moment-là comme ça, compte déjà 20 000 habitants. Et entre-temps, d'autres colonies vont également naître, les 13 premières colonies qui deviendront les 13 premiers États des États-Unis. Parmi elles, d'ailleurs, il y en a 2 que vous citez et qui sont aussi fondées sur des bases religieuses, le Maryland, hein, oui, pour les catholiques, et la Pennsylvanie pour les Quakers.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce sont des colonies qui ont été créées pour le Maryland dans les années 1630 et pour la Pennsylvanie à la fin du XVIIe siècle. En fait, le Maryland a été une colonie pour catholiques, d'où le terme de Marie, qui en même temps permettait d'honorer la reine Henriette Marie d'Angleterre, la sœur de Louis XIII, qui avait épousé Charles Ier d'Angleterre.
Et la mère de Christ aussi en même temps.
Très rapidement, voilà. Très rapidement, le Maryland a été occupé majoritairement par des non-catholiques. En ce qui concerne la Pennsylvanie, c'est différent. Les Quakers sont restés en majorité jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc ce sont là 2 colonies fondées pour des raisons religieuses. On pourrait même en ajouter une troisième, c'est le Rhode Island, petit état aujourd'hui de la Nouvelle-Angleterre, qui a été fondé par des baptistes chassés par les congrégationalistes du Massachusetts. C'est-à-dire qu'on peut avoir été victime de l'intolérance en Angleterre et pratiquer aussi l'intolérance dans le nouveau territoire.
Alors, quelques-unes des 13 colonies qui accéderont à l'indépendance, proclamées en 1776, conquises en 1780 après la victoire de Yorktown. Qu'est-ce qui représente pour les Américains, André Caspi, aujourd'hui, l'aventure du Mayflower il y a déjà 400 ans
Tout d'abord, c'est une aventure religieuse. C'est la découverte de la terre promise par des gens qui n'étaient pas spécialement intéressés par le profit, mais essentiellement suivant la providence. Deuxièmement, c'est aussi la création avec le Mayflower Compact d'une certaine forme de démocratie. Et puis, c'est cette grande aventure des pionniers qui ont traversé l'Atlantique, qui ont affronté les difficultés pour créer une nation nouvelle qui soit à l'image de ce qu'ils imaginaient et qui tourne le dos aux vilenies, aux vicissitudes que l'Europe connaissait et connaîtra.
Bref, c'est un mythe fondateur. Je rappelle, André Caspi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. C'est un grand spécialiste des États-Unis. Les États-Unis d'aujourd'hui, publié récemment chez Perrin dans les collections de Poche Timpus. Et puis les Américains, un livre en deux volumes, publié au Seuil dans les collections Point il y a quelques années, et qui est vraiment un livre remarquable et dont je recommande la lecture. À lire également Histoire de la colonie de Plymouth, racontée justement par William Bradford, dont on a entendu des extraits, et qui est publié, qui vient de sortir chez Labor et Fides. Vous avez pu entendre des extraits du film Capitaine sans peur de Raoul Walsh avec Spencer Tracy dans le rôle du commandant du Mayflower. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Virginie Bloch-Lenné et Claire Destacan. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.